17 mars. Je suis resté quelques jours au lit. Le premier jour, Maria Petrovna a fait prendre de mes nouvelles, ce qui prouve son extrême bonté, car après mon incartade, elle eût pu non seulement ne pas me témoigner de sollicitude, mais encore me consigner sa porte. Le second jour, j'ai reçu un billet de Lydia. Je l'ai relu tant de fois que le transcrit par cœur. C'est à tort que vous en voulez à Michel. C'est une gouvernante de Zepkin qui vous a appelé Melchisedec. Sonia nous l'a répété, cela nous a semblé amusant, mais puisque cela vous fâche, désormais personne ne le dira plus. Vous ne sauriez croire combien je suis peiné de vous savoir malade et combien je désire vous voir au plus vite. Votre amie Lydia. Ce billet m'a tout à fait calmé et j'ai passé au lit une heureuse journée. J'oubliais ma maladie et tout ce qui m'entourait. Je ne voyais devant moi que Lydia et je récitais sans me lasser le dernier amour, une poésie de Toutchef que j'adore. Oh, comme à la limite de l'âge, notre amour est plus tendre, plus superstitieux. Oui, superstitieux, on ne pouvait imaginer d'épithète plus juste. J'ai examiné attentivement l'écriture indécise, presque enfantine, de Lydia. Dans la forme des lettres, je cherchais à lire son caractère, mon avenir. Si j'étais jeune, je désirais ardemment son portrait, mais je n'en ai pas besoin pour l'avoir. Elle écrit la lettre K avec une boucle petite en haut. Je crois deviner son regard dans cette boucle. Ô toi, mon dernier amour, tu es le bonheur et le désespoir. 23 mars. Si le royaume de l'amour existait réellement, comme il serait étrange et cruel, quelle loi y régnerait? Et peut-être peut-il y avoir des lois pour ce souverain capricieux? Des centaines de jolies femmes passent devant vous et vous laissent tout à fait indifférents, et tout à coup vous apercevez un visage quelconque, et aussitôt vous sentez que votre vie en est remplie et que hors de ce visage, dans le monde entier, il n'y a plus rien pour vous. Pourquoi? Peut-être votre bisaïeul a-t-il aimé une femme qui ressemblait à celle-là, et son image est-elle entrée en vous, dans votre sang, dans vos nerfs? C'est un bonheur que de rencontrer cette femme quand on est jeune. Elle peut répondre à votre appel et l'amour vous recevra tous deux dans son brillant palais. Hélas, ma jeunesse a passé sans que se fît cette rencontre bénie. Et pourquoi ne la ferais-je plus à présent? Vous n'êtes pas un vieillard, mais tout de même vous êtes âgé, m'a dit Lydia le jour que nous avons fait connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire, âgé? Est-ce ma faute si elle est née trop tard ou si je suis né trop tôt? L'âge est-il donc un crime? Au contraire, dans toutes les autres circonstances, l'homme, à mesure des années, rencontre l'estime, les honneurs. Pourquoi donc le priver du droit le plus sacré, du droit d'aimer? Aussi bien, pourquoi ne pas assassiner tout homme qui a passé la quarantaine? Non, me dit la cruelle souveraine, on ne t'assassinera pas, on ne te privera pas du droit d'aimer. Viens chez moi, si tu veux, mais dans mon royaume, la vie ne te sera pas douce. Reste plutôt à l'entrée du palais, et admire comme je distribuerai aux autres mes sourires, mes caresses. Toi, à la porte, tu n'auras qu'à te taire. Pour toi, ni d'égard ni d'honneur, et ne t'avise pas de faire voir ton mécontentement. Tu te ferais congédier. Ton sang bouillira et les outrages te révolteront, mais il faudra que tu souris. Ton cœur se brisera de douleur et il faudra que tu danses. Mais surtout, il sied que tu te taises, te taises, te taises. Non, je ne me tairai pas. Quoi qu'il puisse en advenir, je pénétrerai dans le palais magique et je parlerai fièrement le langage d'un homme libre. Peut-être ne me chassera-t-on pas. Les femmes n'aiment pas les seuls jouvenceaux. Ainsi, sans aller plus loin, Mazeppa était beaucoup plus vieux que moi, et Marie l'aima. Puis enfin, je ne suis pas un vieillard, je ne suis pas ce Stepan Stepanovitch qui est paralysé depuis 2 ans. 26 mars. Avant-hier, le docteur m'a permis de me lever, mais non pas de sortir. Et aussitôt m'est entré dans la tête le projet de m'expliquer nettement avec Lydia. À vrai dire, tout mon espoir de réussir se fonde sur ce billet. Mais que prouve ce billet? Il est écrit seul strictement en vue de disculper Michel. Je le vois à présent clair comme le jour. Naguère, j'y voyais tout autre chose. Je parcourais mon appartement et, enivré par les derniers vers de Toutchef, j'avais perdu jusqu'au souvenir du désespoir et ne pensais qu'au bonheur d'être le mari de Lydia, de lui consacrer tout le reste de mes forces, de ma vie. C'est hier que j'avais définitivement arrêté mon plan et je viens de le mettre à exécution. J'avais prié le docteur de venir aujourd'hui de meilleure heure pour observer l'effet d'une nouvelle drogue fortifiante. Il est venu à 10 heures, apparu très satisfait des résultats obtenus et de mon empressement à suivre ses ordonnances. Enfin, il a exprimé l'espoir qu'il pourrait peut-être me permettre de sortir dans une dizaine de jours. Dès qu'il eut passé la porte, je m'habillai et courus à la Sergeevskaya. Mon plan reposait sur ce fait que Maria Petrovna, se levant tard, je ne rencontrerai pas d'autres visiteurs. Je ne m'étais pas trompé, Lydia était seule au salon, elle étudiait une sonate. Elle fut très contente de me voir et voulut courir réveiller Maria Petrovna. J'eus du mal à l'en empêcher. Nous avons commencé par dire des niaiseries. Le temps passait, je savais que je ne trouverais pas de sitôt un moment favorable, et néanmoins une horrible timidité liait ma langue. Enfin, je me décidai. Je pris les choses de loin, je parlais de ma solitude. Mais exprimer que Lydia seule pouvait d'un coup faire cesser tous mes chagrins, je n'y parvenais pas. Le langage fier d'un homme libre que je voulais tenir à Lydia baissait de quelques tons. Depuis le commencement de ma harangue, Lydia me considérait d'un air malicieux. Elle voulait dire quelque chose, mais hésitait. Enfin, Pavki, Pavlik, parlez plus clairement. Vous me faites une déclaration. Oh, comme vous êtes charmant, comme je suis contente. » Elle quitta sa place et me prit les mains. « Ce n'est pas un rêve, Lydia » criai-je hors de moi, fou de bonheur, en serrant ses mains. « Vous consentez à être ma femme ?» Lydia dégagea ses mains et alla se rasseoir à sa place. « Mais non, Pavlik, je ne le puis. » Et cependant, je suis très heureuse de votre proposition. Mais que voulez-vous dire, Lydia? Pourquoi me torturer ainsi? C'est un grand secret, mais tout de même, je vous dirai tout. J'ai promis à Michel de l'épouser. Comment, Michel? Il est encore à l'école? Dans 4 mois, il sera officier, et alors nous nous marierons aussitôt. Et si à cause de son âge, on ne le lui permet pas, il se fera délivrer un certificat médical, demandera un congé, et ne retournera au régiment qu'ensuite. Oh, c'est décidé depuis longtemps, j'étais encore en pension, nous nous aimions déjà. Vous voyez comme je vous aime, quel secret je vous dis. Personne, personne ne le sait. Mais vous m'avez fait tant de peine quand vous avez parlé de votre solitude que si je n'étais pas engagée envers Michel, je vous épouserais. Vous ne savez pas. Épouser Tante Marie. Nous vivrions tous ensemble, ce serait si gentil. Alors vous ne voulez pas. Je vous en prie, faites-le pour moi. Ah, puis-je raconter que vous m'avez fait votre demande? Je me taisais. Eh bien, je ne le raconterai pas. Je vois que vous ne le voulez pas. Je ne le dirai qu'à Michel. À Michel, on peut? Oh, assurément, qu'à Michel, on peut, criai-je désespéré. Non seulement qu'on peut, mais on doit, il le faut. Comment ne pas le raconter à Michel? Il sera votre mari. Pour tout autre, un tel bonheur suffirait. Mais pour Michel, c'est encore peu. Pour son triomphe, il lui faut en outre le plaisir de se moquer d'un pauvre vieillard, auquel il ne reste rien au monde. Lydia quitta de nouveau sa place et entourant mon cou de ses bras. Cher Pavlik, pardonnez-moi, j'ai dit une grosse sottise. Non, 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 vous pouvez être sûr que je ne le raconterai à personne. Ni à Tante Marie, ni à Michel, à personne. Ce sera un secret de vous à moi. Vous m'aimerez comme avant, nous resterons amis. Je me sentis prêt à pleurer comme un enfant et courus chez moi. Et voilà comment finit mon dernier amour. Le bonheur est parti, le désespoir seul reste. Je dois avouer que de retour chez moi, j'éprouvais d'abord une sorte de soulagement. Au moins, la situation était claire. Plus de troubles à craindre ni d'espoir. Rien ne m'empêcherait plus de continuer mon journal. Je l'ai entrepris en vue d'y résumer ma vie passée, et je me suis laissé entraîner par les événements présents. Désormais, il n'y aura plus de présent. Il n'y aura plus que le passé. Ce que je goûte le plus dans les explications de Lydia, c'est ce certificat de médecin que veut se faire délivrer Michel Gorievski. Je voudrais voir le médecin qui le lui délivrera. Il est fort comme un tronc d'arbre, et si même toutes les facultés de médecine du monde s'assemblaient à Pétersbourg, elles ne pourraient lui trouver de maladie. Pour être malade, il faut évidemment être un homme intelligent, instruit. Est-ce que les bûches sont malades? 27 mars. Contrairement à ce que j'écrivais hier, il me faut consacrer encore une page à des événements actuels. Hier, à peine avais-je achevé la relation de mon entretien avec Lydia, qu'on me remit un billet de Maria Pietrovna. Mon cher Paul, j'ai été très heureuse d'apprendre que vous êtes venu à la maison ce matin. Je ne savais pas qu'on vous permit de sortir. Venez dîner avec moi. Lydia est partie pour toute la journée. Je suis seul. Le matin, j'avais supporté mon échec avec assez de courage. Mais en entrant chez Maria Pietrovna, à la vue de ces murs entre lesquels était né et mort mon dernier espoir, je souffris horriblement. Mon âme me fit mal comme une dent gâtée. Pour ma souffrance, je ne pouvais espérer remède plus calmant que la société de Maria Pietrovna. Très effrayée de ma pâleur, elle me soigna, me plaignit, et je me sentis pour elle un élan de si douce reconnaissance que je me décidai à lui conter ma peine. Maria Petrovna, dis-je, quand après le dîner nous nous fûmes assis dans le petit salon, nous sommes de si vieux amis que je crois de mon devoir de me confesser à vous. Peut-être vous fâcherez-vous, cependant je vous dirai tout. Oui, c'est vrai, Paul, nous sommes de très vieux amis. Savez-vous pourquoi je suis venu ce matin? J'ai fait une déclaration à Lydia. À une telle nouvelle, toute autre femme eût au moins poussé un cri d'étonnement. Mais rien ne peut étonner Maria Petrovna. Elle se contenta de me demander avec calme. Oui, vraiment, eh bien. Naturellement, j'ai essuyé un refus, mais on ne pouvait espérer autre chose. Ne dites pas cela. Si Lydia me demandait conseil, je l'engagerais à agréer votre demande. Vous feriez un mari charmant. Je vous remercie, Maria Petrovna, bien que vous ne disiez cela que pour me consoler. Oh non, 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 vous savez que je ne vous flatte jamais. Si j'étais à la place de Lydia, j'accepterais sûrement. Oh, il est vrai qu'entre vous existe une assez grande différence d'âge, mais qu'importe. Il arrive si souvent à présent de voir des jeunes filles épousées par amour, des hommes jeunes, et être malheureuses toute leur vie. Ma tendresse pour Maria Petrovna augmentait à mesure qu'elle parlait. Pour sa dernière phrase, je l'aurais embrassée. Voilà, pensais-je, une femme qui m'aime vraiment et m'apprécie. Elle ne se moquerait pas de moi comme l'autre. Et cependant, comme il arrive toujours dans la vie, je n'ai pas su la distinguer, et maintenant je suis obligé de me priver de cette dernière consolation, de ce suprême refuge. En effet, après ce qui s'est passé entre Lydia et moi, il ne m'est plus possible de revenir aussi souvent ici. Et tout à coup, j'éprouvais une vive douleur à la pensée d'être obligé de rentrer chez moi. Jamais je n'avais souffert de la solitude. Mais jadis, c'était autre chose. Jadis, j'avais l'espoir. Mais rentrer à présent dans cet appartement vide, froid, pour passer seul les heures sans fin de la souffrance, de la maladie, et avec le souvenir perpétuel de l'affront insupportable, amer, non, non, c'est trop pénible. Je regardais Maria Petrovna. Ses yeux brillaient d'une telle bonté qu'elle me sembla belle. Maria Petrovna, m'écriai-je tout à coup, m'étonnant moi-même. Puisque vous le feriez à la place de Lydia, faites-le donc à la vôtre. Soyez ma femme. Maria Petrovna ne parut pas étonnée de ce langage. Elle se tut un instant, puis répondit. Non, Paul, à ma place, c'est tout à fait impossible. Impossible, pourquoi? Pour beaucoup de raisons. D'abord, je ne veux pas aliéner ma liberté. Mais pourquoi diable avez-vous besoin de liberté? M'écriai-je sans plus choisir mes expressions. Vraiment, on pourrait s'imaginer que vous faites je ne sais quel usage de votre liberté. Vous vivez comme la supérieure d'un couvent. Seulement, en guise de psaume, vous lisez la revue des deux mondes, ce qui est presque la même chose. Oh, n'ayez pas peur, je n'attaquerai pas votre chère revue. Soyez sûr que je vous laisserai libre là-dessus. Eh bien, avez-vous quelque autre raison? Beaucoup d'autres. D'abord, il est trop tard. Pourquoi ne pas avoir demandé ma main au temps? Vous vous rappelez? Vous m'avez tant aimé. Pour l'amour de Dieu, Maria Petrovna, nous avions alors 10 ans l'un et l'autre. Peut-on se marier à 10 ans? Non, Paul, vous vous trompez. Vous aviez alors 7 ans de plus que moi. Ah oui, bien soit, je ne discute pas. Mais si j'avais alors 7 ans de plus que vous, la même différence subsiste. En quoi cela peut-il être un obstacle? Non, non, vous ne m'avez pas comprise. Je voulais dire qu'à mon âge, il est affreux de commencer une nouvelle vie, d'entrer dans un monde inconnu. Comment inconnu? Vous oubliez, il me semble, que vous avez été mariée et que vous avez été assez heureuse avec feu votre mari. C'est vrai, j'aimais, j'estimais aussi Vassilievitch. Néanmoins, dans les relations conjugales, il y a beaucoup d'ennuis. Et puis je vous dirais qu'il y a encore dans tout cela un côté ridicule, qui n'est pas du tout pour me plaire. Il me fallait battre en retraite. Mais à ce moment, perdre Maria Petrovna me semblait un tel malheur que j'insistais encore. Maria Petrovna, écoutez-moi. Nous nous connaissons depuis si longtemps qu'avec des concessions réciproques, il nous sera très facile d'effacer tous ces inconvénients de la vie conjugale. Déjà, nous nous voyons tous les jours. Qu'y aurait-il donc d'étonnant à ce que nous nous marions? Ce ne sera pas un mariage de passion, à notre âge. Il est ridicule d'être follement amoureux. Ce ne sera pas un mariage d'intérêt, puisque chacun de nous a sa fortune assurée et une situation assez brillante dans le monde. Ce sera, si l'on peut dire, un mariage de commodité et de vieille amitié. Enfin, nous arriverons à l'âge où nous attendent la maladie et une foule de misères. Et au lieu d'envoyer prendre chaque jour des nouvelles l'un de la santé de l'autre, ne ferons-nous pas mieux de nous soigner l'un l'autre et de nous aider mutuellement à vivre de notre mieux nos derniers jours? Jusqu'ici, nous avons marché côte à côte, donnons-nous la main à présent. Mon éloquence fut vaine. Maria Petrovna ne m'écoutait pas. Elle était évidemment plongée dans ses souvenirs matrimoniaux. « Mais imaginez-vous, interrompit-elle, qu'Assi Vassilievitch venait parfois chez moi enveloppé dans une vieille robe de chambre de fourrure et en fumant sa pipe. Oh, Dieu, rien que d'y penser, j'ai des nausées. Et après, quand il partait, cette fourrure restait sur mon divan. Et une fois, devant moi, il a ôté son râtelier et l'a frotté avec je ne sais quelle poudre. Mais c'est affreux, affreux! Mais avec moi, la même chose n'est pas à craindre. Je n'enlèverai pas de râtelier devant vous, parce que toutes mes dents sont très bien conservées. Je ne fume jamais la pipe, et je puis vous jurer, si vous le voulez, que vous ne me ferez jamais en robe de chambre, du moins de fourrure. » Et puis, il était horriblement jaloux, horriblement, bien que sans motif. Parfois, il disait qu'il sortait, et tout à coup, il rentrait, s'imaginant qu'il allait trouver quelqu'un. Naturellement, il ne trouvait personne. Mais avouez que des soupçons pareils sont blessants, d'autant plus qu'en province, où nous vivions alors, tout le monde en était instruit. Il se montrait surtout jaloux l'été, quand il devait partir en tournée d'inspection. Alors, pour m'effrayer, il inventait chaque fois de nouvelles histoires. Une fois, sur son ordre, son ordonnance me jura qu'il existait une loi, d'après l'Ossip Valisilevich avait le droit, aussitôt les troupes en campagne, de me fusiller sans jugement. Je me souviens très bien qu'il appelait cette loi stupide le règlement militaire. Bien entendu, je n'y croyais pas, mais convenez, Paul, que c'est outrageant. Oui, je l'avoue, mais je vous jure, Maria Petrovna, que je ne serai jamais jaloux, même si je vous trouvais en tête à tête avec Kolakounichev, que vous aimez tant. Ah, voilà encore un ingrat. C'est vrai que je l'aimais beaucoup. Et comme il m'en a remercié, il y a une éternité que je ne l'ai vu. Et au jour de l'an, il s'est contenté de me déposer sa carte. Jamais les hommes ne savent apprécier un sentiment pur. Tous ont des instincts grossiers et le désir d'étaler leur force brutale. Au fond, Nicolas a tout à fait le caractère de son oncle. Ossip Vassilievitch était tout à fait comme lui, tout à fait. Mais vous n'avez pas remarqué chez moi de sentiments aussi grossiers, dites-moi. Maria Petrovna me regarda attentivement. C'est vrai, je n'ai rien remarqué de tel chez vous. Mais peut-être ressemblez-vous quand même à ces deux hommes. « Non, Paul, croyez-moi, je vous aime beaucoup, je vous crois mon meilleur ami, mais je ne puis pas vous épouser, c'est impossible, impossible. » Je pris mon chapeau. « Où allez-vous? Nous ne pouvons plus rester ensemble, parce que nous ne nous marions pas. Je me rassis et nous nous tûmes. Il y a des personnes avec qui le silence même est aisé. Maria Petrovna est de celle-là. Mais après l'entretien que nous venions d'avoir, nous étions gênés et nous fûmes soulagés d'entendre retentir la sonnette de l'escalier. C'était le médecin. Quand il m'aperçut, son visage exprima d'abord une véritable stupeur, puis l'indignation et enfin l'ironie. « Eh bien, mon cher Pavlik, je vous remercie. Ah non, je ne m'attendais pas. Voilà comment vous reconnaissez mes soins. Oh, sans doute, je ne suis ni votre père, ni votre tuteur. Et je ne puis vous défendre de vous tuer si la fantaisie vous en prend, mais ce que je ne veux pas, c'est recevoir de l'argent pour des visites inutiles. Cherchez donc un autre médecin, et alors dansez, buvez, faites des parties en troïka, faites tout ce que vous voudrez. D'un mot, comme disent les Français, vogue la galère. » « La galère et pas le galère, » corrigea doucement Maria Petrovna. « Bon, je sais s'il faut le ou la, mais je sais que je ne puis plus vous soigner. » « Mais si, vous le pouvez, cher docteur, » m'écriai-je d'un ton plus convaincu que jamais. « Ramenez-moi à la maison et faites de moi ce que vous voudrez. » Je vous donne ma parole d'honneur de ne pas sortir d'une année entière s'il le faut. Je n'ai plus à présent où aller. 5 avril. Bon, on dirait que cette fois, je suis sérieusement malade. Le docteur fronce les sourcils, ordonne des drogues de plus en plus fortifiantes et ne manque jamais de me reprocher ma sortie de la semaine dernière. Il la traite de polissonnerie. Une de ces polissonneries pour lesquelles on fouette les enfants. Le docteur a raison. C'était en effet une sottise. Et pas seulement au point de vue médical, à tous les autres. Mais comment avais-je pu espérer réussir? Et si Lydia avait consenti, quelle vie m'attendait? Sans doute, c'est une enfant charmante, mais aurais-je pu remplir sa vie? J'ai pensé et dit qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de la vie de famille. Et sur ma route, j'ai rencontré force charmantes et séduisantes jeunes filles, avec qui ce bonheur semblait possible. Et cependant, je ne fis jamais aucune tentative pour le réaliser. Je l'ai toujours ajourné. J'attendais toujours quelque chose d'extraordinaire. La raison de ces atermoiements, c'est que je ne pensais jamais à la vieillesse. Elle n'entrait pas dans mes calculs d'avenir. L'année dernière, quand quelqu'un me traitait de vieux célibataire, je riais de tout mon cœur. Célibataire, oui, mais pourquoi vieux? Or, voilà qu'après un demi-siècle passé à rêver platoniquement au bonheur familial, j'ai fait coup sur coup, dans la même journée, 2 demandes en mariage. Si mon histoire avec Lydia, par la somme des souffrances qu'elle m'a causées, peut s'appeler un drame, mon aventure avec Maria Petrovna est un vaudeville, un lever de rideau. Depuis, j'ai longuement réfléchi à ce qui m'avait poussé à tenter cette démarche inattendue et grotesque. Je me suis convaincu qu'inconsciemment, j'avais obéi à la dernière recommandation de Lydia. « Épousez ma tante, faites-le pour moi. » m'avait dit la naïve enfant. Et comme elle a l'habitude de me faire faire ses commissions, elle m'a envoyé chez sa tante, et moi, qui cède à tous ses caprices, j'y suis allé. Et la tante eut peut-être accédé à cette demande si je n'avais tout gâté en évoquant à son imagination Osip Vassilievitch avec sa pipe, ses fausses dents et ses instincts grossiers. Mais cependant, si Maria Petrovna m'a refusé, qui m'épousera? Me voilà célibataire à jamais et forcé de passer dans la mère solitude les jours que m'accordera la fortune. Il y a des personnes qui s'accommodent de la solitude et y trouvent même de la joie. Mais ces personnes s'aiment trop elles-mêmes. Et moi, je ne puis m'aimer parce que j'ai de moi-même une très médiocre opinion. Et pourtant, comment vivre sans personne à aimer, sans savoir en quoi espérer? Dans mon journal de Dresde, j'ai écrit autrefois cette pensée. Tout homme, à défaut du bonheur personnel, peut trouver la consolation dans l'amour de l'humanité. Maintenant, je pense un peu autrement. De toutes les phrases par lesquelles se consolent les hommes, il n'en est pas de plus idiote et de plus fausse que celles qui ont trait à l'amour de l'humanité. Je comprends qu'on puisse aimer sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses amis. Je comprends que l'on puisse aimer le pays où l'on est né, et quand la patrie est en danger, qu'on sacrifie sa vie pour elle. Je comprends qu'on puisse non seulement apprécier par l'esprit, mais jusqu'à un certain point aimer le cœur des hommes inconnus, des étrangers, s'ils ont élargi notre horizon spirituel, s'ils nous ont donné un plaisir sublime, s'ils ont étonné notre imagination par quelque acte héroïque. Mais aimer les hommes seulement parce qu'ils sont des hommes, je doute que quelqu'un réellement éprouvé ce sentiment. Pourquoi les Chinois seraient-ils plus près de mon cœur que les minéraux enfouis dans les forêts vierges de l'Amérique? Qu'on professe un amour négatif consistant à ne pas faire de mal ou même à ne pas souhaiter de mal aux Chinois, je le comprends encore. Et je ne souhaite aucun mal aux minéraux. Qu'ils gisent en paix dans le sein de la terre américaine et que les Chinois jouissent de la vie dans le céleste empire. Passer leurs frontières, je ne le désire aucunement, car s'ils voulaient visiter l'Europe en foule, il serait bien difficile de lutter contre eux. Je ne comprends pas pourquoi les hommes au cœur large se bornent à l'amour de l'humanité. On peut élargir le domaine, on peut s'enflammer d'amour pour tous les animaux, pour la planète Terre, puis pour tout le système solaire, enfin brûler d'amour pour tout l'univers. Mais je ne comprends pas ce genre d'amour universel. Qu'il aime la Terre, celui qui s'y trouve heureux. 9 avril. Je vais de plus en plus mal. À présent, au lieu d'un médecin, j'en ai deux. Fyodor Fyodorovitch m'a amené son ami Anton Antonovitch, un spécialiste. Cet Anton Antonovitch est aussi maigre et aussi sombre que Fyodor Fyodorovitch est gros et bruyant. Quelle maladie ai-je au juste? Ils ne me le disent pas, mais ils ont parlé latin devant moi une heure entière en me palpant. Je trouve cela très indiscret et de leur part très imprudent. Ils sont convaincus sans doute que je ne sais que 2 ou 3 mots de latin. Mais j'en sais un peu plus. Et l'un de mes collègues de l'école militaire est aujourd'hui l'un des premiers latinistes de l'Europe. La conséquence immédiate de la venue d'Anton Antonovitch fut une 4e drogue encore plus énergique. Elle fit d'abord quelques effets et, grâce à elle, je puis continuer mon journal, ce que je ne pouvais faire ces jours derniers à cause d'une grande faiblesse. Ce journal est la seule joie de ma vie. Tout le reste m'est défendu. Heureusement que Fyodor Fyodorovitch ne sait pas que j'écris. Sinon, il ne manquerait pas de s'y opposer. En effet, il m'a tout défendu. Je ne puis ni boire, ni manger, ni fumer, ni lire, ni recevoir d'amis. Le nouveau médecin me disait même avec tristesse, « Tâchez de moins penser, mais c'est assez difficile quand on ne dort pas. » Grâce à une protection spéciale du docteur, Maria Pietrovna s'est entrée chez moi. Hélas, hier elle m'a vu en robe de chambre. Et elle s'est souvenue sans doute d'Ossip Vassilievitch d'impérissable mémoire. C'est étrange comme la question de la mort m'a intéressé depuis ma plus tendre enfance. Alors déjà, la pensée seule de la mort m'effrayait. La mort d'une personne que je connaissais un peu me privait pendant plusieurs jours d'appétit et de sommeil. Et de longues années se passèrent avant que je puisse m'habituer à cette idée pourtant très répandue, que tous les hommes mourront, méchants et bons, riches et pauvres, vieux et jeunes. C'est la seule égalité que l'homme puisse atteindre. Mais de la pensée que tous les hommes mourront à celle que moi, je mourrai, il y a encore une grande distance. À cette pensée-ci, j'ai seulement réfléchi hier. Je ne puis dire que j'ai très peur de la mort, et d'ailleurs, pourquoi craindre un sort qui frappe tout le monde imperturbablement? J'avais un ami qui avait très peur de mourir et qui vivait de la façon la plus régulière. Jamais il ne mangeait à dîner une bouchée de plus que la veille. Jamais il ne se couchait 5 minutes plus tard. Les diverses allées de son jardin étaient mesurées exactement, et le matin, en faisant sa promenade, il touchait du pied le vieil arbre où commençait l'allée pour compter le nombre de tours qu'il faisait. Et malgré toutes ses précautions, il est mort à moins de 40 ans. Ma tante Avdotia Markovna riait beaucoup de cette peur qui ne le quittait pas. « N'est-ce pas stupide d'avoir si peur ?» disait-elle sans gêner. Quand tu pars de Moscou pour Pétersbourg, tu te déshabilles et te couches dans le wagon et tu t'éveilles à Pétersbourg. La mort, c'est la même chose. Nous nous endormons ici et nous nous éveillons ailleurs. Elle-même ne craignait rien, ne prenait aucune précaution. Et elle a vécu jusqu'à l'âge de 85 ans. Les hommes qui veulent cacher qu'ils ont peur de la mort disent que ce n'est pas la mort qui les effraie, mais les souffrances qui la précèdent. Ils aiment à répéter le mot si connu. Bon, ce n'est pas la mort qui m'effraie, c'est de mourir. Distinction tout à fait vaine. Les souffrances ne viennent pas de la mort, mais des maladies qui parfois ne finissent pas par la mort. Beaucoup de médecins me l'ont dit, et je l'ai vu moi-même à la mort de mon unique et bien-aimé frère. Quelques heures avant qu'il mourût, sa respiration était régulière, son visage calme, si bien qu'un rayon d'espoir entrait en moi. Et au moment même de la mort, il me jeta interrogativement un regard consterné. Son visage conserva même cette expression jusqu'au moment où je lui fermais les yeux. J'ai songé à lui demander « Mais qu'y a-t-il qui t'étonne, mon pauvre Sacha? Est-ce que tu vois ou es-tu étonné de n'avoir rien vu ?»« Je suis croyant, oh, pas assez. J'ai lu les principales œuvres des matérialistes, sans me laisser absolument convaincre. Mais je me suis rendu compte que, dans le fond de chaque âme humaine, se cache la pensée que notre existence ne peut cesser. » C'est une voix intérieure, timide, faible. On peut la dominer facilement par le raisonnement, mais on ne peut l'étouffer. Parfois elle se hausse et les hommes lui obéissent inconsciemment, presque contre leur volonté. Pourquoi allons-nous aux enterrements et aux messes mortuaires? Je ne parle pas des enterrements mondains où l'on va pour les parents du défunt et quelquefois pour se distraire. Un jour, Maria Petrovna s'attristait de n'avoir pas su à temps la mort d'une de ses amies et de n'avoir pu assister à la messe. Pour la consoler, je lui dis qu'elle irait aussi bien à la messe à l'autre jour. « Oh, c'est pas la même chose, » me répondit-elle naïvement. « C'est à la première messe qu'il y a toujours le plus de monde. » Mais il est arrivé à chacun de nous d'aller aux messes d'un célibataire sans parents, et où nous ne pouvions rencontrer et espérer personne. J'ai toujours fait mon possible pour assister à des messes de ce genre, me disant que j'étais obligé de payer une dernière dette. Mais à qui? Payer une dernière dette au défunt? Cela n'a pas de sens puisqu'il ne vous verra pas. Mais une voix intérieure me disait que le défunt verrait et apprécierait la démarche. Cette voix parle plus haut encore quand je pense à mon propre service funèbre. Je me représente très vivement toute la cérémonie. Je vois entrer des hommes, j'entends leurs conversations. Je distingue les marques de la sincérité ou de l'indifférence sur les visages. Mais il y a une chose que je ne puis deviner. D'où verrai-je tout cela? D'où? C'est le problème dont la solution a tourmenté et tourmentera toujours les hommes, ceux qui sont instruits comme les ignorants. Hamlet dit « Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être, mais quel rêve ?» That is a question. Avdotya Balakovna, qui sans doute n'avait jamais lu Shakespeare, employait la même comparaison, mais formulait sa pensée plus clairement. Chose remarquable, la science, qui a décidé une fois pour toutes qu'après la mort il n'y a rien, s'efforce cependant de temps en temps de soulever le bord du voile qui couvre le grand secret. Pourquoi tant de savants connus font-ils du spiritisme? Qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce la magie seule? Du spiritisme, ma pensée est allée naturellement aux défunts. Je me suis remémoré toutes les personnes que j'ai connues, et le résultat, c'est que la plupart sont déjà dans la tombe. Eh bien, le temps est venu pour moi d'aller les rejoindre. Je voudrais mourir en pleine connaissance. Je voudrais savoir que je meurs et une dernière fois m'observer attentivement. Ce désir sera-t-il réalisé ou c'est douteux? Peut-être mourrai-je au moment où l'on essaiera de me convaincre que je suis tout à fait guéri. Mais pourquoi cette misérable comédie? Pourquoi ce dernier inutile mensonge? Évidemment, je touche à la fin. Ma tête est encore assez solide, mais les forces s'en vont de jour en jour, et les souffrances, la nuit surtout, sont insupportables. À peine suis-je assis à ma table que déjà ma main a de la peine à tenir la plume. Ce matin, Maria Pietrovna m'a conseillé de me faire administrer et Féodor Fédorovitch me propose pour demain une consultation de médecin. Naturellement, j'ai dit oui à tout. L'une et l'autre affirment que je suis hors de danger et qu'ils ne font leur proposition que pour me tranquilliser. Après leur départ, on m'a remis quelques cartes de visite. Sur l'une, j'ai lu « Comtesse H.P. Zavolskaya ». Oh, cette carte à elle seule est mon arrêt de mort. Hélène Pavlovna ne viendrait pas chez moi s'il restait le moindre espoir de me sauver. Sa visite n'est qu'une réconciliation in extremis. Allô ? Il est temps de faire ma nécrologie. Il y avait une fois un homme que ses amis appelaient Pavlik Domsky. De sa vie, il ne fit rien de particulièrement méchant, mais il n'y avait en lui grand-chose de bon. À vrai dire, c'était un homme assez nul, et pourtant, il aura occupé une place assez marquante. Son cerveau travaillait, son cœur battait fort et ardemment. Il aura beaucoup pensé, senti, souvent désiré, espéré, et plus souvent encore, souffert et erré. Son grand malheur fut de ne rien faire et de se croire jeune trop longtemps. Quand il s'en fut rendu compte et qu'il voulut rendre sa vie un peu plus raisonnable, on lui dit « Non, il est trop tard. Tu as passé le temps d'aimer comme celui de penser, de désirer, d'espérer, de te tromper. Peut-être souffriras-tu encore un peu, mais pas longtemps, puis tu disparaîtras. Je ne sais ce que pensent les autres, mais moi je plains ce pauvre Pavlik envoyé en ce monde sans son consentement et renvoyé malgré lui. 5 juillet. Il y a plus d'un mois qu'on m'a emmené à Vassilievka, encore faible et sauvé de la mort par quelques miracles. Le jour où j'écrivis la dernière page de mon journal fut le dernier dont j'eus conscience. Je me rappelle ensuite, comme dans un brouillard, l'entrée de mon confesseur, le père Basile, et avec quelle ardeur j'ai prié. Je me souviens encore que des gens tout à fait inconnus se sont approchés de moi, m'ont mis nu et ont disputé autour de moi. Même l'un d'eux, le plus gris et le plus chauve, a fort malmené Fyodor Fyodorovitch. Puis je ne me rappelle plus rien. Rarement, je reprenais connaissance, et à la lumière de la lampe voilée d'un abat-jour sombre, je voyais toujours devant moi Maria Pietrovna, qui me faisait prendre mes remèdes. Mais ce n'était plus la Maria Pietrovna que je connaissais, non, c'en était une autre. Je voulais lui demander pourquoi elle était si pâle et si maigre, mais je ne le pouvais pas. Aussitôt que j'avais pris ma médecine, elle disparaissait. Seul le bruit léger de ses pas s'entendait sur le tapis, et de nouveau je perdais connaissance. Même à présent, il m'est difficile de comprendre combien de temps dura cet état. Je m'éveillais un matin. Il n'y avait plus ni lampe ni abat-jour. Un clair soleil rayonnait au store de ma fenêtre. Je remuais et des pas légers glissèrent sur le tapis. « Maria Petrovna, est-ce vous ?» demandai-je en me frottant les yeux. « Non, 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 je ne suis pas Maria Petrovna, » me répondit en s'approchant de mon lit une petite femme maigre au doux et sympathique visage. « Je suis la garde malade. Vous m'appelez toujours Maria Petrovna, mais cela ne fait rien. »« Et quel est votre nom ?»« Je vous le dirai plus tard. À présent, il ne faut plus parler. Allez, prenez votre potion et dormez. » En même temps, la petite femme enlevait très adroitement mon oreiller et m'en remettait un autre. Jusqu'à présent, je me rappelle comme je m'endormis doucement, la tête appuyée sur ce coussin. Et de ce jour commença la guérison. Dans les rares moments où, durant ma maladie, j'avais pu penser, je me rendais bien compte que j'allais mourir, et cette pensée ne m'attristait guère. Chaque nouvelle phase de ma guérison, au contraire, remplissait mon cœur d'une joie indicible. Mon premier entretien avec Anna Dmitrievna, c'était le nom de la garde, la première tasse de thé qu'on me permit, la première bouffée d'air frais de printemps quand on ouvrit ma fenêtre, tout cela fut pour moi autant de fêtes. Parmi les lettres restées fermées que je trouvais sur mon bureau, il y en avait une d'Hélène Pavlovna qui m'expliqua sa visite. Elle écrivait que, demeurée fidèle à la mémoire de son premier mari, elle me priait de lui remettre, pour qu'elle l'ait lu, les lettres d'Alyosha ainsi que ses photographies. Elle ajoutait à la fin que, si par hasard je trouvais de ces lettres à elle, j'eusse l'obligeance de les joindre à celles de son mari. À ce billet sec, quoique poli, je répondis par une lettre très cordiale. Je demandai à Hélène Pavlovna de me pardonner si ma conduite m'avait valu sa colère, lui donnai ma parole d'honneur, et c'était vrai, de n'avoir conservé aucune de ses lettres, et mis sous enveloppe le groupe prophétique, le seul monument du passé. 2 heures après, on me remit un morceau de vilain papier, sur lequel je lus d'une tracée d'une grosse écriture mal formée, La comtesse Hélène Pavlovna Zavolskaya a reçu la lettre, le paquet de M. Dolski, en foi de quoi, selon les ordres de son Excellence, je signe le valet de chambre Jacques. Si Hélène Pavlovna est innocente de la mort de son mari, et je doute de plus en plus de sa culpabilité, je suis horriblement coupable envers elle, et sa colère est légitime. Toutefois, il me semble qu'après un quart de siècle, elle pourrait un peu se calmer et s'adoucir. En tout cas, je suis très content qu'avec le groupe prophétique ait disparu tout, presque tout, ce qui me restait de cette pénible période de ma vie. Il ne me reste plus que les remords de conscience qu'on ne peut envoyer nulle part. La correspondance d'Hélène Pavlovna est la seule tache qui ait assombri le fond clair de ces deux derniers mois. L'impression de ma joie de jour en jour grandit, et elle atteignit son paroxysme quand on m'emmena à Vassilievka. Cette vieille maison plongée dans la verdure des tilleuls et des peupliers, ce grand et vieux jardin dont on pourrait faire plusieurs parcs, m'ont ramené au temps inoublié de mon enfance, qui fut gai et pur. Nous arrivâmes à Vassilievka dans la nuit. Le lendemain, en me levant, je me mis au balcon fleuri et embaumé d'un buisson entier de roses. Et quand ma vieille Pelagéia Ivanovna m'apporta mon café dans une grande tasse bleue, enjolivée de bergères peintes, je sentis que le poids des lourdes années était tombé de mes épaules. Pendant la route, j'avais senti par moments une grande faiblesse. Les coins familiers me rendaient tout à coup mes forces d'autrefois. J'ai parcouru la maison et d'un pas léger, je suis monté dans cette chambre qu'enfant j'occupais avec mon frère. Cette chambre n'a guère changé. Une grande table noire entaillée de coups de canif occupe le même coin entre la fenêtre et le poêle. Nos lits d'enfants sont restés côte à côte, seulement le papier est déchiré, la couleur des rideaux des fenêtres est passée. J'ai ouvert une grande fenêtre à laquelle j'étais jadis resté accoudé de longues heures, à regarder pensif l'orée d'une vieille et sombre forêt qui bleuissait à droite. Les arbres sont coupés et à leur place on aperçoit la rivière bleue qu'ils empêchaient de voir autrefois. Le paysage est peut-être plus beau, mais je regrettais l'antique forêt coupée, et avec soulagement, je tournais mes regards à gauche vers les ruines de la vieille cuisine. J'avais 10 ans quand on fit construire la cuisine de pierre, mais près d'elle, à demi pourrie, les débris de la cuisine de bois sont encore là. J'étais heureux que le puits, comblé depuis longtemps, eût été conservé, et de voir à l'entrée du potager l'épouvantail en habit noir placé là jadis pour effrayer les corbeaux, mais qui alors nous effrayait beaucoup plus, Sacha et moi. Un mois entier s'est écoulé sans que je m'en sois aperçu. Je voulais faire visite à quelques voisins, mais je remettais toujours ces visites au lendemain. Je craignais d'interrompre ma vie calme, ma vie solitaire, de souvenirs et de rêves. Je revivais au passé. Je retrouve ici les lettres que j'avais écrites à ma mère au cours de 30 années. D'ordinaire, je passe toute ma matinée à lire ces lettres. Sur chacune, je réfléchis longuement. Non seulement je lis les mots qui sont écrits, mais je vois entre les lignes ce que je taisais. Tout mon passé revit dans ma mémoire. Une foule d'hommes passent de nouveau devant moi avec leurs traits tantôt nets et tantôt effacés. Ces taches d'ombre sur les personnes qui me sont proches avaient beaucoup troublé mon âme dans les années de l'adolescence. Maintenant, je les vois avec plus de calme, puisque je comprends mieux Et comprendre, selon le grand mot de Shakespeare, c'est pardonner. Ma seule distraction, c'est de causer avec Pelagéia Ivanovna, et nos conversations n'ont trait qu'au passé. Elle a beaucoup plus de 80 ans. Elle avait été engagée pour nourrir ma mère, et de ce jour, elle est restée dans la maison. On l'y a traitée comme une personne de la famille. Elle a très bien connu mes deux aïeuls, et ses récits m'expliquent beaucoup de traits de mon caractère et certains actes de ma vie. D'une famille jadis nombreuse, je suis le seul survivant. Maintenant, je ne prie que pour ta santé, me disait un jour Palagueia. Et quand je me rappelle tous les autres, il me faut dire, Dieu, garde l'âme de ton serf. Hier, j'ai trouvé ce cahier et j'ai relu mon journal. Chose étrange, les lettres que j'ai écrites il y a 30 ans sont beaucoup plus près de mon âme que ce journal commencé l'année dernière. Une transformation morale s'est produite en moi depuis ces 2 mois. Par exemple, en commençant ce journal, je me suis demandé, suis-je heureux ou malheureux? Je ne pouvais répondre à cette question. Aujourd'hui, j'y réponds sans hésiter. J'ai été malheureux pendant de longues années, mais maintenant je suis tout à fait heureux. Peut-être mes dissertations sur l'amour de l'humanité étaient-elles logiques, mais ce qui est logique n'est pas toujours juste. Je ne puis dire notamment si j'aime l'humanité ou la planète ou le système solaire. Je sais une seule chose, que j'aime la vie dans toutes ses créations et j'aime la pensée que je vis. Aujourd'hui, il fait très chaud, comme il n'a pas fait chaud encore cette année. La paresse me gagnait, je n'arrivais ni à lire ni à penser. Je suis descendu au jardin et m'y suis installé à l'ombre d'un large érable. Le ciel était sans nuages, autour de moi régnait un calme absolu. Tout ce qui pouvait se garer de la chaleur dormait, les hommes comme les animaux et les arbres. Seules quelques hirondelles silencieusement traversaient l'air, quelques mouches tournoyaient sans bruit au-dessus de ma tête, et de loin en loin arrivaient jusqu'à moi le clapotis de l'eau et les cris des gamins qui se baignaient dans la rivière. Puis tout se taisait. Gagné par l'exemple, j'allais m'endormir. Quand je fus éveillé par l'arrivée d'un nouveau personnage, à quelques pas de moi se tenait un grand coq qui me regardait attentivement. Il poussa 2 fois très haut un cri impérieux, parut mécontent de quelque chose et rebroussa chemin en foulant délicatement l'herbe comme un élégant de la ville qui vient par hasard à la campagne et craint de salir ses bottines vernies. On dirait que ce coq m'a été envoyé pour chasser un sommeil malencontreux et me rappeler au plaisir, c'est-à-dire à la vie. Mon Dieu, pensais-je plein d'enthousiasme, comment ne pas te remercier? J'étais condamné à mourir et sans un miracle, je serais dans la tombe. Je ne jouirais pas de ce bienfaisant soleil, de cette ombre délicieuse. Le coq chanterait devant ma tombe, mais je n'entendrais pas son cri. Je sais que l'heure n'est pas loin, mais je dois te savoir gré de ce délai et en profiter. Quoi qu'il puisse m'arriver maintenant, je ne crains plus rien. Si j'étais condamné aux travaux les plus pénibles, s'il me fallait mener l'existence d'un mendiant sans asile, alors même je ne me révolterais pas. Dormir sur la terre nue vaut encore mieux que dormir dessous. D'ennemis, je n'en puis avoir. Il n'y a pas d'outrage que je ne puisse pardonner. Je crois n'avoir haï personne aussi vivement que Michel Kozielski. Et maintenant, je pense à lui sans amertume. Dans 3 semaines, j'irai à la campagne chez Maria Pietrovna et je passerai chez elle la fin de l'été. Puis à la fin d'août aura lieu le mariage de Lydia. et je promis d'être garçon d'honneur. Je ne puis me rappeler cette charmante enfant sans attendrissement. Bien que le démon de l'amour soit complètement endormi en moi, et je l'espère ne doive plus s'éveiller. Ces jours-ci, Lydia m'a écrit. Quand même, j'insisterai, et après mon mariage, je ferai tout pour que Maria Petrovna vous épouse. Elle le fera peut-être, mais que m'importe. Si chaque homme éprouvait une fois dans sa vie ce que j'ai éprouvé, c'est-à-dire s'il avait senti nettement un de ses pieds dans la tombe, la haine cesserait entre les hommes. La vie humaine est enfermée dans un cadre si étroit d'ignorance et de faiblesse. Elle est si accidentelle, si incertaine, si courte, qu'il est absurde à l'homme de l'empoisonner encore par de stupides querelles. Quelle terrible folie que la guerre! Mais comment les hommes peuvent-ils se décider à s'entretuer? L'homme n'a qu'un seul et véritable ennemi, la mort. On ne peut lutter contre elle, mais il ne faut pas l'aider. Et si ce renoncement à la lutte, ces élans d'amour n'étaient pas des preuves de ma transformation morale, mais seulement les signes du ramollissement de la vieillesse? Tant pis, il faut se soumettre. Il faut renoncer à être Pavlik. Il est temps de venir Pavel Malvleïevitch et d'accepter la vieillesse avec toutes ses conséquences. Ah, vieillard! Vieillard.